Demain ouvrira à Paris un lieu qu'aurait adoré Jean-Baptiste Grenouille, le héros du parfum, le roman de Patrick Suskind, un lieu qui retrace l'histoire des fragrances depuis l'Égypte des pharaons et qui propose une expérience olfactive unique en son genre avec la découverte de plus de 70 odeurs. Ce lieu, c'est le Grand Musée du Parfum qui accueillera le public 73 rue Saint-Honoré. Et avec mes invités, historiens, neurobiologistes et chercheurs, nous allons explorer les odeurs et les parfums liés aux hommes. Et j'attends dès maintenant vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, des empreintes d'Australopithèques qui éclairent d'un nouveau jour le mode de vie de nos cousins africains.
Précisément de Tanzanie, dans les plaines de l'Étolie, où de nouvelles traces de pas ont été découvertes. Certaines très larges nous permettent d'imaginer des groupes d'Australopithèques divers et même polygames. Une découverte importante que nous détaillons avec le paléoanthropologue José Braga.
Nous retrouverons comme chaque jeudi la chronique de santé polémique de Dominique Dupagne, consacrée aujourd'hui aux applications pour mobile qui pourrait renforcer l'activité physique. Et puis en fin d'émission, je vous offrirai la boîte de jeu de la tête au carré. Stéphanie Texier réalise cette émission préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les hommes, les odeurs et les parfums, thème de notre émission dans quelques minutes à l'occasion donc de l'ouverture demain du Grand Musée du Parfum à Paris. Mes invités, la chercheuse Delphine de Swart, le neurobiologiste Roland Salès et puis dans un instant l'historienne Elisabeth de Feydeau nous rejoindra. Bonjour donc à vous deux pour commencer.
Bonjour.
Roland Salès, l'olfaction c'est un sens qui change tout au long de la vie?
Ah oui, ça change tout au long de la vie. Ça change en fonction de l'âge, ça change en fonction de notre état de santé, ça change en fonction si on est amoureux, si ou on ne l'est pas. Enfin voilà, il y a beaucoup de cas où ça change.
Delphine de Swart, une mauvaise odeur, c'est quelque chose de très subjectif au fond. Hein.
Entièrement, c'est construit, ouais. C'est culturel et puis aussi ça peut changer en fonction de la vie. Hein, selon qu'on aime quelqu'un ou pas, la mauvaise peut devenir une bonne odeur.
Ouais, et puis on remontera aux premières traces d'utilisation du parfum avec Elisabeth de Feydeau, cette histoire qui, comme vous, fait partie du comité de ce Grand Musée du Parfum. On la retrouvera dans quelques minutes avec les messages des auditeurs pour parler odeurs et parfums sur franceinter.fr. Il y a 3,6 millions d'années, un groupe d'Australopithèques marchait dans les cendres humides d'un volcan et inscrivait sa trace dans l'histoire.
Eh bien, à présent, c'est sûr, ils marchaient. Ils marchaient il y a très très longtemps de cela. On peut l'affirmer grâce à la découverte de ces empreintes de pas inscrites dans la cendre d'un volcan. L'ancêtre de l'homme se tenait réellement debout à l'Étolie il y a 3 600 000 ans.
Le site de l'Étolie en Tanzanie, découvert donc dans les années 70, qui contient les plus vieilles traces de pas de nos cousins australopithèques, il vient d'être fouillé à nouveau et des scientifiques italiens et tanzaniens ont découvert de nouvelles empreintes, dont certaines très larges, appartiennent à un mâle mesurant presque 1,70 m. C'est beaucoup pour un australopithèque. On en parle avec vous, José Braga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléoanthropologue, professeur à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Alors pourquoi ces nouvelles traces de pas sont importantes pour comprendre qui étaient les australopithèques?
Et en fait, ces australopithèques dont on a trouvé les empreintes de pas tout récemment sont des australopithèques proches de Lucie. Ils appartiennent à la même espèce que Lucie. Ils vivaient en Afrique de l'Est entre 4 et 3 millions d'années. Les traces que nous avons ont 3,6 millions d'années. Et ce sont les traces de deux nouveaux individus. Nous en connaissions déjà trois. Et ces deux nouveaux individus sont plus grands. En tout cas, l'un d'entre eux est bien plus grand que ce que l'on pensait jusqu'à présent à propos de ces australopithèques.
Une fois qu'on sait qu'il est grand, ça nous renseigne sur la diversité du groupe d'Australopithèques?
Oui, tout à fait, parce que là, nous avons la chance d'avoir un instantané de plusieurs individus, et l'un d'entre eux étant beaucoup plus grand que les autres, eh bien, cela nous montre qu'il y avait un fort dimorphisme dans la taille de ces Australopithèques à ce moment-là, précisément, il y a 3,6 millions d'années. Or, cette variabilité de taille, c'est un très très bon indicateur de la compétition entre les mâles pour pouvoir transmettre leur génération, leur gène à la génération future. Donc c'est un peu une sorte d'homologie entre ce que nous observons avec ce que nous observons chez les gorilles à l'heure actuelle. Les gorilles mâles sont très souvent différents par leur taille et les plus grands sont les dominants, ceux qui vont transmettre leur gène.
Là, en tout, vous parlez de 5 traces de pas. Les deux sites de fouilles, ceux d'il y a 40 ans et ceux de cette année, sont distants de quelques centaines de mètres. Est-ce qu'on peut penser que c'est le même groupe qui a marqué ces deux sites?
Alors c'est possible, ça n'est pas exclu, mais pour l'instant les observations faites par les géologues ne permettent pas de l'affirmer à 100%. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que série de traces sont relativement contemporaines. Elles peuvent être distantes dans le temps de quelques dizaines, voire quelques centaines de millions de milliers d'années, pardon, tout au plus. Mais à l'échelle, bien sûr, de l'évolution de cette espèce, c'est tout à fait mineur.
Donc, José Braga, on peut comparer vraiment ces Australopithèques aux gorilles actuels ?
On peut les comparer, non pas par leur morphologie ou leur comportement, on peut les comparer en termes de structuration sociale et de dimorphisme sexuel. C'est-à-dire qu'on a probablement affaire avec l'espèce de Lucie à des groupes qui sont de relativement petite taille et pour lesquels on a une forte compétition entre les mâles qui va engendrer ce fort dimorphisme sexuel entre les mâles qui cherchent à conquérir le cœur des femelles et à transmettre leur gène à la génération suivante.
On vous entend assez mal, j'espère que la prochaine question ce sera mieux. Quelle succession d'événements météorologiques ou géologiques sont nécessaires pour que ces traces soient moulées et nous parviennent actuellement ?
Alors en fait, ce qui est important, c'est que ces traces sont moulées dans de la cendre qui donc a été projetée par un volcan. Cette cendre a ensuite été humidifiée par une pluie qui est survenue peu de temps après l'éruption. Des Australopithèques ont marché ensuite sur cette cendre humide qui, de nouveau, a été très rapidement, en quelques jours, recouverte par une nouvelle éruption volcanique. Et c'est ce qui nous permet de les observer encore aujourd'hui, sinon elles auraient été complètement détruites.
Ça veut dire que ces Australopithèques vivaient dans un environnement hostile, deux éruptions en moins de quelques semaines ?
Absolument. Ils vivaient non seulement dans un environnement hostile pour les raisons qu'on vient tout juste d'évoquer, mais aussi parce que ces animaux étaient probablement chassés. On a retrouvé des traces claires de prédation par de gros carnivores sur d'autres sites. Donc ils étaient à la fois, le ciel leur tombait sur la tête de temps en temps, et puis aussi de gros carnivores, par exemple des tigres nantes, pouvaient également les chasser.
Donc plus aucun doute sur la bipédie évidemment de ces Australopithèques. Hein. On en a la trace inscrite dans ces cendres, José Braga.
Oui, absolument, ces traces de pas. Vous savez, on en a découvert les premiers éléments il y a maintenant plusieurs décennies, toujours dans la même région, et elles ont confirmé ce que l'on savait déjà à partir de l'étude du squelette de Lucie, c'est-à-dire que ces Australopithèques est-africains entre 4 et 3 millions d'années étaient tout à fait bipèdes, capables de se déplacer sur leurs deux pattes postérieures, mais avaient conservé une capacité à grimper dans les arbres.
Ouais. Si on devait les imaginer marchant dans la boue, qu'est-ce qu'on ajouterait sur le tableau pour le rendre réaliste ? Des bagages, des armes, des vêtements ?
Des vêtements, on ne peut pas le dire, mais il faut imaginer probablement des outils très rapidement après cette période-là, puisque maintenant, nous savons que ces Australopithèques sont probablement les artisans des premiers outils qui ont été fabriqués il y a 3,3 millions d'années. Alors je sais qu'à l'échelle d'une vie humaine, 300 000 ans d'écart entre les traces et les premiers outils, c'est important, mais à l'échelle de l'évolution de cette espèce-là, c'est relativement minime. Donc ces Australopithèques devaient certainement se déplacer avec des outils, en tout cas 300 000 ans plus tard, et cela peut-être déjà, mais ça on ne le sait pas encore.
José Braga, il y a notre invité Roland Salès qui se pose une question évidemment en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Roland Salès,
est-ce que les Australopithèques se parfumaient ?
Alors, est-ce qu'on peut en avoir des traces dans les cendres ?
Alors malheureusement, c'est une très bonne question qui nous intéresse beaucoup ici aussi à Toulouse, le système olfactif. On sait que les chimpanzés et les humains ne sentent pas du tout de la même manière parce que notre système olfactif s'est dégradé au fil de l'évolution et beaucoup de gènes qui s'expriment pour le système olfactif chez l'homme, normalement, ne s'expriment plus, sont silencieux. Par contre, ils le sont toujours chez les chimpanzés. Pour les Australopithèques, on ne sait pas s'ils se parfumaient malheureusement. Le seul organe des sens qui laisse une trace sur l'os, c'est l'organe de l'audition.
Est-ce que d'autres de nos cousins étaient présents dans la même zone d'Afrique au même moment ?
Alors c'est possible. En tout cas, certains collègues l'affirment à partir de la découverte que l'on qualifie de kényanthropes, qui ont le même âge que les traces dont on parle aujourd'hui. Et ces kényanthropes, beaucoup pensent qu'ils sont peut-être plus étroitement liés à l'homme que ne le sont les Australopithèques de l'espèce de Lucie. Donc probablement, dans cet environnement est-africain, deux grandes formes dominées se côtoyaient et l'une d'entre elles seulement a conduit à l'espèce humaine actuelle.
José Braga, dernière question. 1m70, c'est vraiment une surprise comme taille pour un Australopithèque ou pas ?
Alors c'est surprenant si on regarde ce que l'on connaît en Afrique de l'Est. Par contre, d'autres découvertes toutes récentes qui feront l'objet de publications à l'avenir, montrent qu'on a des éléments osseux, notamment des éléments du squelette des jambes, qui montrent de gros individus également, sensiblement de la même taille, c'est-à-dire aux alentours d'1m60 à 1m70 en Afrique du Sud.
Merci beaucoup. Très belle découverte en tous les cas en Tanzanie de ces traces donc d'Australopithèque vieilles de 3,6 millions d'années. Merci beaucoup José Braga et Axel. On se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le rat content qui a les oreilles roses et légèrement inclinées. Des chercheurs de l'université de Berne en Suisse ont comparé des photos de rats stressés et de rats contents pour voir si leurs émotions étaient visibles sur leur face. Eh bien, seules les oreilles varient entre la situation positive et négative. Elles sont plus inclinées chez le rat content, indiquant la relaxation des muscles. Elles sont également plus roses, certainement à cause d'une plus forte vasodilatation des vaisseaux sanguins due à l'excitation. Les chercheurs précisent que ces informations seront surtout utiles aux laborantins, car entre eux, les rats communiquent surtout par les odeurs, le toucher et les vocalisations, et au final, peu par la vue. Si l'homme a perdu son os pénien, c'est certainement parce qu'il n'est pas polygame. Cette question de la disparition de l'os du pénis agite les scientifiques depuis un moment, d'autant que nos proches cousins, les bonobos et les chimpanzés, possèdent ce rigide appendice appelé aussi bacula. En étudiant l'évolution de l'os chez de nombreuses espèces de primates actuelles, les chercheurs concluent qu'il est utile surtout chez des groupes d'individus où les femelles s'accouplent avec plusieurs mâles et où la compétition pour la fécondation est donc importante. En permettant une introduction profonde dans le vagin et en gardant l'urètre constamment ouvert, l'os pénien favorise les mâles à l'ossature la plus massive, un problème de taille donc qui, bien sûr, a complètement disparu chez l'homme moderne. Et puis, saviez-vous que plus de 62% des femmes et 58% des hommes sont incapables de sentir l'odeur particulière de l'asperge dans les urines? Cette drôle de conclusion fait partie d'une étude en cours bien plus large sur la diversité génétique du sens de l'odorat chez les Européens. Ce syndrome de l'asparagus anosmia, ou incapacité à sentir l'odeur de l'asperge, est lié à une variance génétique particulière vérifiée sur une cohorte de plus de 700 000 génomes. Pour les chercheurs, deux questions demeurent toujours. Pourquoi l'asperge sent-elle aussi fort dans les urines? Et quel est le processus évolutif qui a conduit près de la moitié de la population à perdre cette capacité à sentir cette odeur? Il y a encore du travail, mais on a peut-être quelques réponses avec vous, Roland Salès.
Assez peu et guère plus que ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, le métabolisme de l'asperge est très variable sur les individus. Donc déjà, dans l'urine de certains, on sent très fortement l'odeur dite d'asperge et d'autres pas. Et deuxièmement, effectivement, du côté du récepteur, il y a à peu près la moitié de la population qui ne sent pas cette odeur.
Ouais.
Sans qu'on sache vraiment si c'est un avantage ou un désavantage évolutif.
Mais nous ne sommes pas tous égaux face aux odeurs. D'ailleurs, on peut le vérifier au musée du parfum, on en parlera avec vous tout à l'heure. Et c'est le dossier dans un instant. Grey hoodies, they cover their heads. I can't see their faces, can't see. They knew me, looks well my hair. My heart was something drumming. No need to take from me. Don't throw the paint on me. I see the slick forming. I got lost astray. And as far as running away, I step up. I'm on the edge now. And they see me. And that near me. I need to lose my grip. But you held up to me. Et c'est Samfa à l'instant sur France Inter.
La tête au carré sur France Inter.
Les hommes, les odeurs, les parfums cet après-midi dans le dossier, alors que s'ouvrira donc demain ce grand musée du parfum rue Saint-Honoré à Paris. Pour nous guider justement sur la route des odeurs, Elisabeth de Feydeau, hystérienne et écrivaine, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes expert pour des sociétés de parfums et le 28 janvier prochain vous allez publier le roman des Guerlains chez Flammarion. Delphine de Swart, vous êtes enseignante-chercheure spécialisée dans le langage et l'esthétique du parfum à l'université Paris 3 et vous êtes rédactrice pour la revue Née, dont c'est le deuxième numéro qui paraît. Et puis Roland Salès, vous êtes directeur de recherche honoraire à l'INRA, spécialiste de la neurobiologie de l'olfaction, et vous avez publié entre autres en 2015 chez Quai « Faut-il sentir bon pour séduire ?» Les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé « L'attaque ». Il est bien ce titre. Hein,
oui, n'est-ce pas hein.
Et alors c'est quoi la réponse? Est-ce qu'il faut sentir bon pour séduire?
C'est toujours oui et non.
Ah ouais, c'est très subjectif là aussi. Hein,
tout à fait.
On le disait tout à l'heure. Alors ce grand musée du parfum qui ouvre ses portes demain dans les murs d'un sublime hôtel particulier de 1400 m² au 73 rue du Faubourg Saint-Honoré. Vous êtes tous les trois membres du comité de ce musée qui donc propose un parcours multisensoriel sur quatre étages. Elisabeth de Feydeau, petite visite rapide pour les auditeurs pour nous expliquer à peu près ce qu'on va pouvoir voir et surtout sentir, hein, parce qu'on est vraiment très sollicité. Hein.
Ah bah oui, forcément, c'est un musée du parfum. Donc on démarre par le R-1, par les racines, donc par histoire du parfum, histoire au pluriel.
Ouais.
Parce que justement, ce serait trop simple de résumer l'histoire du parfum à une seule histoire. Et puis on monte progressivement dans toutes les arcanes du parfum, de l'odorat jusqu'au travail des parfumeurs, jusqu'enfin au parfum. Enfin, il y a un parcours d'ailleurs que tous les membres du conseil scientifique ont pu suivre, mais c'est vraiment le parfum dans tous ses états.
Ouais, Roland Salès avec la partie scientifique, effectivement, pour savoir ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous sommes confrontés à une odeur.
Effectivement, du nez au cerveau, comment ça se passe et pourquoi ce pouvoir mystérieux des odeurs, comment se fait-il grâce au câblage de notre cerveau que d'abord on est ému ou qu'on se rappelle des souvenirs avant même qu'on ait conscience qu'on a senti quelque chose.
Ouais. Est-ce que notre capacité d'olfaction est liée à un certain nombre de gènes selon les espèces hein?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, on en parle au musée. Le record est détenu actuellement par l'éléphant qui aurait 2000 gènes de récepteurs olfactifs.
Et ça s'explique hein.
On va dire qu'il a un grand nez.
Ouais.
Bon, l'éléphant est connu quand même pour avoir une mémoire olfactive extrêmement importante. Ouais. Se souvenir très longtemps de l'odeur des gens.
Les rats et les souris.
Les rats et les souris.
Ça, c'est une surprise.
Sont aussi d'excellents animaux olfactifs. Pensez qu'ils vivent essentiellement dans le noir, donc ils se fient beaucoup à leur odorat.
C'est vrai.
L'homme fait figure de parent pauvre, mais c'est pas tout à fait vrai. 400 gènes de récepteurs olfactifs, c'est quand même très honorable et ça permet la performance de nos parfumeurs.
Ouais. Delphine de Swart également, dans ce musée du parfum, un orgue moderne a été reconstitué, donc c'est vraiment l'établi, on va dire, du parfumeur, du nez précisément.
Oui, alors les parfumeurs n'aiment pas trop être appelés nez parce que leur travail ne se réduit pas forcément à cet organe, mais oui, il y a cette très belle réalisation poétique du studio Jason Burge de Londres qui a réinterprété la métaphore olfactive qu'on retrouve dans le travail du parfumeur. Donc pourquoi est-ce qu'on parle d'orgue, d'accord, de notes? C'est souvent parce qu'il est compliqué d'expliquer le travail du parfumeur et que le recours à une analogie musicale permet de mieux comprendre ce travail d'assemblage, de composition. Ouais. Et qui échappe à la vue, un
donc,
sens aveugle.
On est invité à soulever des boules, hein, c'est ça?
Alors ça, c'est pas l'orgue, ça c'est effectivement la palette des matières premières.
Ouais.
Et alors, il y a 25 matières premières qu'on peut sentir, et quand on approche la sphère diffusante...
On a l'explication
exactement
en même temps
à l'oreille
de l'odeur.
Parce que, en fait, le visiteur va découvrir ces molécules ou ces matières premières naturelles sans indication préalable, pour ne pas être perturbé, parce qu'on sait aujourd'hui que les mentions verbales influencent notre perception de l'odeur. Donc comme ça, on est vierge par rapport à l'odeur et ensuite on découvre sa source.
Elisabeth de Feydeau, dans la partie historique justement, là aussi on est confronté à des odeurs intéressantes qui viennent de loin et qui racontent aussi l'histoire des parfums.
Tout à fait, on démarre par le sacré, puisque c'est quand même l'origine du parfum qui était brûlé dans les temples, dans tous ces rituels. Et ce qui est assez fascinant aussi, c'est de constater que finalement, à une époque où les voies de communication étaient quand même pas du tout établies, hein, à l'âge de bronze, eh bien, tous les hommes de toutes les parties du monde ont eu ce besoin de brûler des résines, des bois, des épices, etc. pour honorer les dieux. Donc on va sentir le plus ancien parfum, enfin en tous les cas, celui, le kifi, qui voulait dire le parfum deux fois bon, celui dont on a une recette, puisque à l'époque, à l'entrée des pyramides se trouvaient les laboratoires, et sur les murs des laboratoires étaient inscrites toutes les recettes de ces parfums qu'on appelait sacerdotes, qui n'avaient pas pour fonction première de sentir bon, mais qui étaient vraiment des offrandes et des symboliques. Et donc le kifi deux fois bon, parce qu'il était bon pour les hommes et bon pour les dieux. Enfin d'abord bon pour les dieux d'ailleurs, et ensuite bon pour les hommes.
L'odeur de myrrhe, l'odeur de l'eau de Cologne, l'odeur de la reine de Hongrie.
Bien sûr, la myrrhe et l'encens, qui sont aussi des matières tellement emblématiques.
Et tout ça, on peut le sentir en tant que visiteur.
L'eau de la reine de Hongrie, on parlait justement tout à l'heure de votre livre « Comment séduire avec les bonnes odeurs ». C'est quand même l'eau de la reine de Hongrie, créée en 1370, le meilleur concept marketing qu'on ait encore jamais imaginé depuis. C'est finalement, on vous rend grâce à un parfum la santé, la beauté, la jeunesse et l'amour en plus.
Et la séduction.
Le parfum, c'était quoi? C'était plutôt thérapeutique d'ailleurs au départ, avant d'être cosmétique?
Si j'en crois ce que j'ai lu chez Elisabeth de Feydeau, parce que mes sources historiques viennent de là, pas seulement. Oui, dans un certain cas, on a vu des utilisations de l'eau de Cologne, par exemple, en boisson, pour se soigner. Maintenant, c'est devenu essentiellement, au moins dans nos sociétés occidentales, purement esthétique.
Elisabeth de Feydeau.
Oui, bien sûr, thérapeutique, je dirais sacré thérapeutique, mais déjà de la séduction, parce que finalement, brûler des bois ou des résines pour honorer les dieux, c'était une façon de les séduire, au sens premier du terme, séduquer, se conduire ailleurs pour attirer l'autre. Donc on voulait attirer les bonnes grâces des dieux, puisqu'à l'époque, on pensait que si un dieu vous envoyait une malédiction, c'est parce qu'il était en colère, et s'il était en colère, c'est qu'il était mal nourri. Donc on le nourrissait avec des fumées.
Delphine de Swart.
Oui, en fait, le parfum aussi, ça a une dimension, c'est une promesse d'immortalité. Parce que ce sont des épices incorruptibles dont on vient farcir les cadavres qui sont en train de se putréfier. Donc c'est opposé à la corruption de la chair, l'éternité du parfum. Donc c'est l'immortalité aussi.
On parlait des Australopithèques tout à l'heure, Elisabeth de Feydeau. Les hommes préhistoriques, alors plus proches de nous comme Cro-Magnon par exemple, se parfumaient déjà
? Alors on ne sait pas si c'était exactement du parfumage, mais en tous les cas, avant la chasse, ils se frottaient le corps avec des feuilles odorantes.
Pour enlever leur odeur
Pour enlever leur odeur et aussi pour impressionner. Comme le cérémonial du maquillage qu'on retrouve encore dans toutes les tribus primitives. Donc il y a cette idée quand même du rapport à l'autre, à la fois la force, en même temps la dissimulation. Enfin, voilà, tout ça est très mêlé. La séduction, une fois encore.
Allez, on poursuit l'histoire. Nous sommes au XVIe siècle. Nostradamus, Catherine de Médicis, extrait de ce film Nostradamus, réalisé par Roger Christian en 94.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est une glande de musc.
Mais qu'est-ce que tu fais avec cette chose répugnante ?
J'ajoute une petite goutte de ces sécrétions de musc au parfum.
Pourquoi ?
La senteur se corse, devient très sensuelle. Les hommes en perdront la tête.
Incroyable. C'est incroyable. Un arôme délectable à partir de cette chose infecte. Restez ici à Paris. Vous vivrez richement, et avec vos bons parfums, vous deviendrez l'idole de nos faubourgs.
Voilà, Elisabeth de Feydeau. Alors, après le Moyen-Âge, évidemment, on amorce un changement aussi dans le rapport aux fragrances, aux parfums.
Ben, le parfum continue de porter remède, comme on disait, donc le fameux jardin des simples qui permettait de fabriquer tous ces remèdes. Mais en même temps, il commence à devenir de plus en plus luxe et séduction, et surtout, justement, avec l'intermédiaire de Catherine de Médicis, qui va apporter à la cour de France tout ce raffinement de l'art florentin. Alors, le musc, oui, dont on entend parler, bien sûr, les notes animales, et puis bien d'autres encore. Et à ce moment-là, le parfum devient apparat de cour, parure, si vous voulez, et surtout codification sociale. C'est seule une poignée de privilégiés qui, évidemment, pouvaient masquer leurs mauvaises odeurs avec certaines odeurs, quelquefois pas toujours très bonnes.
À la cour, par exemple, de Versailles, ça ne sentait pas très très bon, quand même, il faut le dire.
Alors, sous Louis XIV, oui, très certainement, même si Louis XIV, en même temps, fait du métier de parfumeur un métier royal et un métier donc nanti de privilège. Il fallait se produire devant le roi avec un parfum différent chaque jour. Mais il faut se rappeler aussi qu'à Versailles, vivait un nombre incalculable de personnes. Donc on peut imaginer sans toilette, etc., tout ce que ça pouvait sentir.
L'odeur de la cour.
L'odeur de la cour. Voilà, donc évidemment, les parfums étaient bienvenus pour les masquer. Mais après, sous Louis XV, au contraire, la salle de bain entre dans les appartements royaux et le parfum devient devient beaucoup plus un attribut de la personnalité, quelque chose voilà, qui est là aussi pour le libertinage. Hein, donc on est des choses un peu plus légères, un peu plus frivoles.
Et notre rapport aux odeurs et aux parfums tout au long de la vie, on en parle dans un instant pour la partie scientifique de ce dossier, avec déjà beaucoup de messages pour vous, Roland Salès, sur franceinter.fr.
Je me souviens, on a fait une émission.
Je les aime tous comme moi-même. Les biens sont bien, mais les mieux sont mieux. J'ai vu la pauvreté à Saint-Tropez. J'ai vu des popstars frustrés. La vie est belle. Pas cher. La vie est belle. Chic et pas cher. J'ai connu un rappeur avec une chaîne en or. Il crie motherfucker même quand il dort. Tout le monde cherche la vérité. Ils font les mêmes tubes d'été. La vie est belle, chic et pas cher. La vie est belle, chic et pas cher.
Savoir, monsieur Guerlain, c'est s'il faut très longtemps pour créer un parfum.
C'est toujours très long, de l'ordre de quelques mois ou de quelques années même. L'olfaction chez l'homme est un sens extrêmement imparfait et en outre un sens qui se fatigue très vite. Le parfumeur qui n'a à sa disposition que son jugement olfactif travaille donc lentement par touches successives car il n'y a aucune règle scientifique écrite pour la composition d'un parfum, tout d'abord parce que le mécanisme de l'olfaction est pratiquement inconnu au point de vue scientifique, ce qui fait que c'est vraiment par approximation successive que le parfumeur travaille. Il doit toute sa science à une sorte de goût et de mémoire qu'il cultive lui-même. Il n'y a pas d'école où l'on enseigne à fabriquer des parfums.
Ah, les choses ont changé quand même. Depuis 1951, Elisabeth de Feydeau.
C'est en plus un de ses fils
qui était l'homme que nous venons d'entendre.
Oui. Jacques Guerlain, voilà. L'immense parfumeur Guerlain. Et c'est son fils qui a créé l'école des parfumeurs à Versailles.
Voilà, le roman des Guerlains, c'est le livre que vous avez publié chez Flammarion à partir du mois de janvier. Roland Salès, justement, les approximations, le tâtonnement, c'est cette science finalement du parfumeur aujourd'hui? Toujours
alors,
ou pas?
Ce qui est intéressant en entendant Jacques Guerlain, c'est que donc cette interview date de 1951. Les années 50, c'est les premières années où on commence à avoir des mesures, des courants électriques déclenchés par l'odorat chez l'homme. Ouais. Donc voilà, il dit que la science était très absente finalement de la démarche du parfumeur.
Absolument.
On va dire que 60 ans après, elle n'y est encore pas beaucoup, mais elle a quand même fait beaucoup de progrès.
Ouais. Sabine nous dit, ma fille de 15 mois commence à montrer son intérêt pour les odeurs. Elle renifle tout bruyamment, exprime son plaisir. Y a-t-il un âge pour faire la différence entre la bonne et la mauvaise odeur, Delphine de Swart?
Alors, il y a un chercheur qui s'appelle Benoît Chal qui a beaucoup étudié le rapport des enfants et des odeurs. Et finalement, la distinction bonne et mauvaise, elle arrive avec l'éducation. Et donc, c'est vers 4 ans que les enfants... Enfin, qu'on dit aux enfants, ça c'est sale, mets pas la bouche.
Donc c'est un vrai conditionnement quand même.
Ah oui, c'est complètement conditionné, bien sûr.
Sinon, a priori, on ne serait pas repoussé par certaines odeurs?
Non, et puis en même temps, tout le monde n'a pas les mêmes frontières entre bonnes et mauvaises odeurs. Heureusement que c'est... Pourtant, parce que c'est pas codé.
Oui, pourtant, certaines odeurs nous font lever le cœur très haut, Roland Salès, quand même.
Oui, c'est vrai. Alors, il y a des odeurs de
poissons pourris, par exemple.
Voilà, alors ces odeurs à base d'amine, d'ammoniac ou des odeurs très soufrées, donc ça en général on n'aime pas. Des odeurs aussi à base de produits qu'on appelle cadavérine qui évoquent bien son origine. Ouais. Donc ça, relativement spontanément, ça fait lever le cœur et ça fait éviter les sites. Oui.
Ouais. Et pourtant dans les parfums, on retrouve aussi dans les très grands parfums des matières fécales, des odeurs de matières fécales par exemple.
Bah oui, mais ne serait-ce qu'une molécule qui est en grande quantité dans les fleurs, notamment le jasmin, qui est l'indole, qui a une odeur très animale et qui constitue l'odeur de la fleur. C'est-à-dire que sans cette partie-là, sans cette partie animale, la fleur serait insipide. Ouais. Donc ça donne de la profondeur. Et puis tout dans l'histoire de la parfumerie, on utilisait beaucoup de produits animaux comme fixateurs. Donc vous parliez tout à l'heure du musc. Donc ces muscs, les castoreums, qui aujourd'hui sont remplacés par des molécules de synthèse, mais qui donnaient ce sillage incomparable au parfum.
Ouais. Elisabeth de Fédot, justement, la synthèse arrive à partir de quand dans l'histoire du parfum? Parce qu'aujourd'hui, même chez les très très grands parfumeurs, on utilise ces odeurs de synthèse.
Bien sûr, et il ne faut pas considérer qu'il y a une mauvaise synthèse et un bon naturel, c'est plus compliqué que ça. Mais la synthèse, donc la chimie organique, démarre dès la fin du XVIIIe siècle. Les premières inventions, on les date la moitié du XIXe. Et les premières applications à la parfumerie, donc les premières innovations, c'est fin du XIXe avec deux parfums majeurs. 1884, le Fougère Royale de Houbigant, et 1889, Jikit Guerlain, même si Aimé Guerlain déjà utilisait la synthèse, notamment dans le Pao Rosa qui date de 1876, mais il n'osait pas utiliser le mot synthèse, alors il parlait de ses tuteurs invisibles. Ouais. Quand on lui disait, mais c'est incroyable ce parfum, quel sillage, il disait, j'ai des tuteurs invisibles.
Olivier nous dit, certaines odeurs de transpiration rance et très fortes me rendent fou alors qu'elles sont très désagréables. Tout ça parce que j'étais amoureux d'une femme qui pouvait avoir cette odeur.
Oui, alors voilà un bel exemple où une histoire du conditionnement amoureux, individuelle laisse des traces. Les traces mnésiques dues à l'odorat sont sans doute les plus durables chez l'homme et dans toutes les espèces.
Ouais, alors justement, Antoinette demande, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour que celui-ci garde une mémoire olfactive de certains lieux ou de certains parfums pendant des années, mais pendant toute une vie d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Et cette mémoire, elle commence dès la vie intra-utérine.
C'est vrai.
Puisque le bébé sent dans le ventre de sa mère, il sent bien sûr l'odeur de sa mère, sa propre odeur.
Il sent pas l'extérieur quand même.
Il se peut que certains produits passent, en particulier les produits alimentaires, passent dans le liquide amniotique. Et donc à ce moment-là, le bébé va sentir. Et donc on va... finalement, fonder ses premières expériences sensorielles, on ne naît pas vierge de toute expérience. On a déjà une expérience sensorielle, ce qui n'est pas vrai seulement pour l'odorat, mais en particulier pour l'odorat.
Delphine de Swart, sur cette mémoire olfactive prodigieuse qui peut nous réveiller tout d'un coup des décennies après avoir senti une odeur.
Oui. Pour revenir un peu sur la vie in utero, on sait que des odeurs fortes comme l'anis sont transmises au fœtus. Et après, dans le... quand le petit homme naît, tous ses sens sont pas encore très bien développés, à part l'odorat, et il cherche le sein à travers son odorat, et ensuite le lait maternel en tant que tel, et contient de la vanille, de la vanilline. Ouais. Et c'est pour ça que ce serait l'odeur
universellement
partagée,
avec le musc, puisque l'odeur de la peau, musc et vanille.
Donc ça, ce sont des odeurs qui restent pour une grande partie de l'humanité, pour ces raisons qu'on peut très bien comprendre. Vous expliquez qu'en grandissant, on ressent beaucoup de pression sociale et que justement, on nous invite à ne pas trop sentir.
C'est compliqué, oui. On a une espèce d'injonction paradoxale qui est à la fois de ne pas sentir mauvais et en même temps de ne pas trop envahir l'autre avec nos parfums. Mm-hmm. C'est-à-dire que, et encore une fois, c'est culturel. Selon les régions du monde, on va avoir une tolérance plus ou moins grande à la pénétration de l'autre par l'odeur. Donc voilà, il y a cette injonction hygiéniste, ouais, de ne pas sentir l'odeur de sa propre odeur naturelle, et en même temps de ne pas sentir trop de parfums artefactuels rajoutés pour être le moins envahissant.
Ouais, justement, Madame de Fontenay, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de Feydeau, pardon. je pensais à Elisabeth de Fontenay. Alors, oui, Elisabeth de Feydeau. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui notre rapport justement au parfum, la façon dont nous l'utilisons par rapport à des périodes précédentes? Est-ce qu'on abuse beaucoup des odeurs? Est-ce qu'on charge beaucoup aujourd'hui dans nos sociétés? Ou est-ce qu'au contraire, on se fait un peu plus discret avec les fragrances?
Non, je crois que oui, c'est à la fois ça et... On charge de, enfin, tout est olfactif, tout est odorant aujourd'hui, mais ça l'était aussi avant. La différence, c'était que avant, il y avait plus d'odeurs, il y avait des décibels olfactifs un peu plus fortes.
On parle de alors décibels qu'aujourd'hui, olfactifs.
Moi, j'utilise ce mot décibels olfactifs parce que je trouve qu'au 18e, quand on essaye d'imaginer une rue à Paris, il devait y avoir quand même des odeurs assez tonitruantes, voyez. Mm-hmm. Et on masquait ces odeurs tonitruantes par des odeurs encore plus tonitruantes. Alors qu'aujourd'hui, on est à la fois dans un monde très désodorisé, c'est-à-dire qu'on va se laver, on se décape, on n'aime pas les odeurs fortes, hein, les odeurs, que ce soit les odeurs animales, les odeurs du mort, enfin bref, on va mettre toutes les odeurs un peu trop fortes à l'extérieur, et forcément on va rechercher de la transparence, de la légèreté, mais en même temps on se parfume tout le temps, alors que autrefois les femmes ne se parfumaient que pour les grandes occasions.
Ouais. Et on mélange les parfums aujourd'hui, hein, alors, avec tous les produits qu'on utilise.
Ben oui, parce qu'on on va avoir 36 odeurs qui se chahutent entre elles. Et puis aussi, les magazines nous apprennent que si on veut avoir son sillage, il faut mélanger tel parfum avec tel autre.
C'est enfin, ça. Donc on est dans de l'alchimie, là, Roland Salès, quand même. Hein.
Oui, sauf qu'on n'en maîtrise pas vraiment.
C'est l'alchimie du hasard.
Un petit peu. Ouh, la pratique.
Ouais. Mathieu, sur Twitter, nous dit de même qu'on parle de l'oreille absolue. Est-ce que le nez absolu ou l'odorat absolu existe?
Alors, on ne peut pas faire de comparaison dans ce sens avec l'odorat. L'odorat, c'est vraiment un sens extrêmement personnel. Alors, on peut effectivement avoir une espèce d'échelle d'intensité pour certaines odeurs, mais c'est très difficile d'avoir quelque chose d'absolu.
Eh bien, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette discussion autour du parfum à l'occasion de l'ouverture du Grand Musée du Parfum demain à Paris.
Abonné absent. Si tu veux savoir comment ça va seul, comment ça va sans. Si tu veux savoir comment ça aboie, comment y a personne. Si tu veux savoir, j'ai fait ça pour rien. J'ai fait ça très bien. J'ai fait ça pour rien. Si tu veux savoir, j'aurais préféré tes soleils couchants, ta plage en été, ta robe de mariée, le troisième enfant. Si tu veux savoir, comment t'es plus là, combien je te dois. Si tu veux savoir, j'ai la panoplie de mon ennemi. J'ai fait ça pour rien. J'ai fait ça très bien. J'ai fait ça pour rien. Si tu veux savoir, j'aurais préféré tes soleils couchants, ta plage en été, ta robe de mariée, le troisième enfant. Je pars sans payer. Si tu veux savoir.
Frère animal, si tu veux savoir, Elisabeth de Feydeau, Roland Salès et Delphine de Swart sont mes invités à l'occasion donc de l'ouverture demain du Grand Musée du Parfum à Paris avec les messages des auditeurs. On parlait tout à l'heure justement de la mémoire tout au long d'une vie, Roland Salès, des odeurs. Même les personnes âgées hein, n'oublient jamais une odeur. Ça ne décline jamais dans le temps, au fond, cette mémoire.
Alors, ça décline, mais c'est surtout les facultés cognitives pour rappeler la mémoire qui décline. Mmh. Et on s'aperçoit que les gens qui sont en état de maladie neurodégénérative. Oui. On peut très bien rappeler des émotions, des mémoires en leur faisant sentir des parfums un petit peu au hasard. Puis des fois, quelquefois, on obtient une manifestation alors que spontanément, elle n'en aurait pas parlé.
Oui. Raphaël demande, est-ce qu'on peut être allergique à certains parfums ? Delphine de Swart.
C'est moi qui m'y connais.
Voilà, c'est ça.
Oui, sans doute. Mais généralement, ce qu'on propose, c'est de parfumer les vêtements. En fait, à partir du moment où on parfume ses vêtements, d'abord, si c'est à condition que ce soit des fibres naturelles, le vêtement peut conserver longtemps l'odeur. Mmh. Bon, alors il y a aussi un autre phénomène aujourd'hui qui est plutôt nord-américain et nord-européen, qui est le phénomène des unwashed, justement, qui
ce sont des
personnes qui ont abandonné tout produit détergent à base de parfum. Mmh. Et voire même tout produit détergent, qui préconisent de se laver à base d'eau pour justement éviter toute perturbation, tout risque d'allergie ou même de rash.
Ouais. Qu'est-ce que ça donne alors?
Eh bien, en raison de notre mode de vie qui est de plus en plus sédentaire, la climatisation partout, c'est leur argument. Ils disent qu'on n'a pas besoin de se laver quotidiennement, les enfants, on n'a pas besoin de les laver quotidiennement.
Oui.
Et ça donne que c'est des gens qui ne sentent pas...
Toujours très bon.
Oui,
Oui, voilà.
Bon, Elisabeth de Feydeau, ce mouvement est vraiment massif aujourd'hui ou pas ?
Oh non, c'est pas massif. En France, on en a quelques-uns aussi. Mm-hmm. C'est vrai que ça sent. Voilà. Donc pour moi, c'est un retour dans le passé. Ça rappelle des anciens souvenirs. Maintenant,
C'est la peau qui s'exprime vraiment. Au
absolument.
Fond, hein. Alors, c'est la nature même de l'homme et de la femme.
Ça c'est intéressant. Je trouve cette idée de se réapproprier son odeur au sens de la connaissance en fait de son odeur propre, puisque justement au 19e, on apprenait encore aux futurs médecins la science du flair, donc à reconnaître les maladies d'après leurs odeurs. Et les femmes même également, c'était parmi les méthodes contraceptives, c'était aussi d'apprendre à reconnaître leurs odeurs pour savoir à peu près où se situer les période propice ou non.
Roland Salès.
L'odeur corporelle est un indice, honnête de l'état de la personne. Ça indique son sexe, ça indique son état reproducteur, ça indique si elle est malade ou pas. Mmh. Donc le diagnostic olfactif qu'on a un petit peu oublié, par exemple dans notre laboratoire, on essaye de le réhabiliter avec des nouvelles machines qu'on appelle nébio-électroniques, mais le diagnostic olfactif n'est pas si mauvais que ça.
Et dans quel but alors vous développez ces machines?
En particulier pour le diagnostic médical, parce que vraisemblablement toutes les maladies ont un profil olfactif spécifique, mais aussi pour la surveillance environnementale, la détection d'explosifs ou d'armes.
Delphine de Swart,
c'est aussi très important. C'est très important aussi de s'exprimer, d'exprimer sa peau et ses vraies odeurs dans un rapport amoureux. Je citerai le Napoléon et le fameux "Ne te lave pas, j'arrive et dans 8 jours je suis là". C'est aussi
c'est du fétichisme.
Mais c'est aussi un rapport. C'est comme ça qu'on tombe amoureux aussi. C'est pas que dans le parfum, c'est aussi dans ce qu'il y a sous le parfum.
Eh bien justement, écoutons l'extrait de ce film « Prête-moi ta main ». Vous allez reconnaître la voix d'Alain Chabat.
Sandrine m'avait quitté et j'avais pas réussi à la retenir. Son odeur était devenue une obsession, tout ce qui me restait d'elle. Mais mes cours de chimie me permirent de la retrouver. Je découvris ainsi qu'il fallait pas moins de 17 odeurs différentes pour reconstituer celle de ma bien-aimée. À ma grande surprise, il y avait même de la banane dans Sandrine.
Facteur qui joue.
Voilà, ça fait discuter mes invités, effectivement. Ouais. Qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire, alors, pendant qu'on écoutait Alain Chabat, et que vous n'écoutiez pas, d'ailleurs, parce que vous connaissez le film par cœur.
Que justement, j'avais lu qu'il y avait des études américaines qui prouvaient qu'en fait, le coup de foudre était lié à l'odeur. C'était, on aimait une personne, alors c'est vrai que l'odeur est très importante dans le rapport amoureux, mais que le coup de foudre, l'envie d'aimer l'autre, d'aller vers l'autre, était lié à l'odeur.
Notre neurobiologiste confirme.
Donc, je demandais.
C'est une rencontre entre deux odeurs, finalement, une histoire amoureuse.
Alors, c'est évidemment une manip qu'on a beaucoup de mal à faire en laboratoire.
Le coup de foudre ?
Oui.
Ah, ça serait formidable.
Par contre, voir chez les couples constituer si l'odeur de l'autre est la préférée, alors là, oui, on arrive à le faire. Et dans la plupart des cas, c'est le cas. Ouais. Mais il y a un moment, quand on n'arrive plus à sentir l'autre, en général, c'est qu'il y a de l'eau dans le gaz.
Il y a de l'eau dans le gaz, c'est mauvais signe. Karl nous dit pourquoi certaines odeurs corporelles peuvent provoquer justement salivation ou désir sexuel. Alors, pour prolonger là-dessus, qu'est-ce qui se passe alors?
Ah oui, alors encore une
fois... C'est encore un coup du cerveau, ça?
Oui, bien sûr, c'est le cerveau qui interprète le message. Hein, et en particulier, certains stéroïdes sexuels peuvent effectivement déclencher des réactions.
Oui. Il y a d'autres questions qui arrivent sur le site de l'émission. Marc nous dit, est-ce qu'il y a des odeurs qui annulent d'autres odeurs? Est-ce que ça, on s'en sert justement en parfumerie, Elisabeth de Fedeau, dans le choix des ingrédients?
Là, c'est un peu technique. J'avoue que je pense que oui, certainement, ça doit être, on doit pouvoir agir de cette manière. Mais
Roland Salès, parce que j'aime bien poser la question de l'historien, l'historienne ou scientifique et vice-versa.
En histoire, ce qu'on trouve plutôt, c'est que finalement, les parfumeurs font comme ce que souhaitait faire Mozart, c'est-à-dire faire se rencontrer les notes qui s'aiment.
Roland Salès.
Au niveau moléculaire, cette fois, on sait qu'au niveau des récepteurs olfactifs, il y a certaines molécules qui sont considérées comme des parfums, mais qui peuvent inhiber certains récepteurs, c'est-à-dire empêcher leur fonctionnement.
Ouais. Jacques nous dit, il devrait être interdit de se parfumer pour aller dans une salle publique. Certaines soirées sont parfaitement écœurantes de ce point de vue-là. Cela dit, les transports en commun le matin aussi.
Oui, hein.
C'est du matin au soir. Voilà. On devrait faire des règles de bonne conduite, finalement, sur les bouteilles de parfum.
Il y a des bâtiments aux États-Unis où il est écrit « scent free building », où il y a des anniversaires, c'est « scent free parties ». Donc il faut venir sans parfum.
Ouais. Bah, c'est plutôt une bonne idée.
Et il y a aussi des personnes au Canada, une personne qui s'est fait débarquer d'un bus parce qu'elle avait trop de parfum sur elle.
Oui, mais c'est vrai que parfois on a envie de débarquer certaines personnes parce qu'on est vraiment gêné. Incommodant.
Dans les années 80, vous savez, à l'époque des parfums coup de poing, il y avait des restaurants qui affichaient interdits aux chiens.
Qu'est-ce que vous appelez les parfums coup de poing?
Des parfums très forts, vous savez.
Très sucrés,
très sucrés. Et puis qui étaient. Vous vous rappelez pas ces parfums des années 80?
Si, mais ça y est.
On ne citera pas de
nom, mais bon. Même pour hommes, il y en avait
d'autres. Voilà, le coup de poing, en fait.
Ça, ouais.
Et certains restaurants n'hésitaient pas à l'afficher à l'entrée.
No smoking, no...
Voilà.
On ne dira pas.
Non. Ségolène nous dit ceci, mon fils de 5 ans est particulièrement sensible aux odeurs et certaines improbables le mettent mal à l'aise jusqu'au haut-le-cœur. Il m'a dit ce matin ne pas aimer déjeuner à la cantine car ça ne sentait pas bon. Ah oui, c'est vrai que l'odeur de cantine, c'était pas terrible quand on était petit, Roland Salès.
Oui, tout à fait. Alors, il y a des gens qui sont naturellement, semble-t-il, bien plus sensibles que d'autres à toutes les odeurs et qui sont très dérangés par certaines odeurs. Alors, l'odeur de la cantine, oui, c'est un souvenir d'enfance.
Alors justement, au musée du parfum, on peut comparer son odorat avec ceux qui nous accompagnent. Et vraiment, c'est très étonnant parce qu'on sent certaines odeurs alors que les gens qui nous accompagnent ne les sentent absolument pas. Alors ce sont des odeurs très marquées.
Là, il se trouve qu'il y a deux molécules. Il y a une expérience qui est faite à propos de deux molécules. C'est l'androsténone et la galaxolide, donc un musc et une hormone auxquelles beaucoup de personnes sont anosmiques. Bon, moi, je suis anosmique aux deux, donc je sens ni l'une ni l'autre. Mais voilà.
Et Roland Salès
Oui, moi aussi, je suis anosmique aux deux.
Ah.
Non, moi, je le sens. Enfin, je sens en tout cas la galaxolide, je la sens bien.
Voilà. Il y a un petit sondage qui est fait d'ailleurs pour savoir combien de personnes...
Je m'amuse beaucoup dans mes conférences à me promener avec de l'androsténone, justement.
Pour embêter vos camarades.
Ça fait de l'animation.
Ça ne vous gêne pas. Voilà, donc ce musée ouvre demain au public. C'est 73 rue Saint-Honoré à Paris, le grand musée du parfum. Et puis, on peut signaler le deuxième numéro, Delphine Swart, de la revue Olfactive Née, qui parle de société, de science, d'art, de culture, tout cela, évidemment... Autour du parfum. Roland Salès, votre dernier ouvrage s'appelle « Faut-il sentir bon pour séduire ?» chez Quae. Et puis on attend donc Elisabeth de Fedeau, le roman des Guerlains chez Flammarion. Ce sera le 28 janvier. Merci beaucoup.
Merci.
À tous les trois.
Merci.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Vous allez vraiment piquer aujourd'hui dans votre chronique?
Non, mais j'aurais dû faire ma chronique sur les charniflores de cancer. Ça aurait été intéressant.
Absolument. Et vous allez nous parler, par contre, des fitness games. De quoi s'agit-il exactement? Tout autre sujet.
Bah écoutez, vous avez forcément entendu parler des serious games, ces jeux qui permettent de cultiver son esprit en s'amusant. Eh bien, les fitness games, c'est l'équivalent pour la culture physique cette fois. Qu'ils fonctionnent sur une console de jeu ou un smartphone, ils sont destinés à inciter subtilement les paresseux à secouer leur graisse. Alors certains jeux pour mobile qui ne sont pas initialement prévus pour pour renforcer l'activité physique pourrait ainsi supplanter les implications dédiées au sport. C'est en tout cas ce que semble démontrer une publication récente. Mathieu, vous avez suivi, comme moi, la folie Pokémon Go qui a déferlé sur la planète il y a quelques mois.
Oui, c'était une folie généralisée d'ailleurs.
Ça, on peut le dire.
Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Vous savez, il fallait chasser dehors des petites bêtes qu'on voyait en réalité augmentée, et des chercheurs de l'université Stanford et de la société Microsoft se sont associés pour étudier l'impact de la chasse aux Pokémon sur l'activité physique des joueurs. Alors le protocole est assez élégant, hein. Ils ont les données de l'activité physique qui viennent de 30 000 porteurs du bracelet numérique Microsoft.
C'est pas mal, hein,
voilà, le sponsor, qui ont accepté que leurs données personnelles soient traitées anonymement pour faire de la recherche médicale. Ce bracelet comporte un gyroscope, un accéléromètre et de nombreux capteurs qui fournissent des données plus ou moins précises qu'un simple smartphone qu'on accroche sur le bras ne pourrait pas donner. Et parmi ces 30 000 porteurs de bracelets Microsoft, 1400 adeptes du jeu Pokémon Go ont été identifiés à partir de leurs recherches sur le site Bing, une sorte de Google de Microsoft. Ouais. Et donc, d'autres groupes ont été constitués, bien sûr, des utilisateurs d'applis fitness, et donc spécifiquement dédiés à la culture physique, et un groupe témoin majoritairement non pratiquant.
Et alors, qu'est-ce qu'ils ont observé ?
Finalement, le premier résultat intéressant, c'est l'engouement pour le jeu Pokémon Go qui ne dure que de 5 à 6 semaines. Ouais. Et les pratiquants réalisent quand même 1000 pas supplémentaires par jour. C'est pas négligeable. Ouais. Or, la fée qui est éphémère, est-ce que Pokémon Go l'emporte finalement sur les applications fitness? Eh bien oui, car c'est sur la cible qu'il gagne. Alors que les applications fitness ne stimulent que ceux qui sont déjà minces et sportifs, ouais, Pokémon Go touche tout le monde, y compris les gros et les allergiques au sport. Et ça, c'est l'effet Serious Game. Utiliser le ludique pour créer de la motivation. L'autre résultat intéressant, c'est que si l'activité physique retourne à son niveau initial chez la majorité des joueurs à Pokémon Go après leur désaffection pour le jeu, elle se maintient à un niveau plus élevé qu'avant chez ceux qui ont pratiqué intensivement la chasse aux Pokémon.
Ça alors.
Et enfin, les auteurs terminent leur papier sur une audacieuse extrapolation bourrée d'hypothèses comme d'habitude, qui est la suivante. Si les joueurs de Pokémon continuaient sur la durée toute l'année à faire 1000 pas supplémentaires par jour, et si ces 1000 pas diminuaient la mortalité de 6% comme on l'a observé dans d'autres études, et si enfin tous les Américains jouaient à Pokémon Go, eh bien on gagnerait presque 3 millions d'années de vie qui seraient économisées tous les ans. Incroyable. Alors, en dehors du côté hypothétique, moi je pose une question, ils ne tiennent pas compte des vies perdues accidentellement par les chasseurs de Pokémon omnibulés par leur écran et qui s'exposent à des accidents en traversant les rues, en courant sans regarder.
C'est un paramètre dont il faut tenir compte également. Mais c'est vrai que c'est retombé, hein, les Pokémon Go, on n'en entend plus beaucoup parler. Hein. Merci beaucoup, docteur Dupagne.
Mais de rien.
On parlera des chiens renifleurs une autre fois, c'est promis.
On reparlera.